Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. C'est l'heure du compte-rendu de mandat radiophonique avec Corinne Morel-Darle. Bonjour.
Bonjour.
Au retour de cette plénière des 17 et 18 octobre dernier à la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous me le disiez comme ça hors antenne, hein, une plénière pas très intéressante. Alors j'ai envie qu'on prenne un tout petit peu à l'envers parce qu'on s'est quitté la dernière fois sur votre voyage au Rojava et qui était à la fois heureux, joyeux dans un sens et en même temps continuer à tirer l'alarme sur la question des camps, etc. Et puis entre-temps, la Turquie a envahi la Syrie et attaque donc le Rojava.
Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que l'inquiétude, elle est évidemment présente et palpable depuis des mois maintenant, hein, puisqu'il y avait déjà eu des alertes et que le président turc Erdogan n'a jamais caché sa volonté justement de déplacer en fait les populations kurdes de la Syrie du Nord pour y réinstaller d'autres populations, notamment arabes. Et donc, on était déjà très inquiets quand on y est allé au mois de juillet. Et malheureusement, depuis deux semaines maintenant, ces inquiétudes se sont très concrètement matérialisées. Avec d'abord l'annonce de retrait des troupes américaines de Donald Trump, qui a été une sorte de feu vert, en fait, envoyé à l'armée turque. Et les choses se sont depuis accélérées, puisque ça fait effectivement deux semaines que l'armée turque, appuyée par des milices djihadistes syriennes bombardent et frappent toute cette bande de la Syrie du Nord qu'on appelle le Rojava, qui est donc cette zone qui s'est déclarée de facto autonome il y a quelques années et qui était jusqu'à il y a encore peu une poche de paix et d'espoir justement dans toute cette zone.
Autonome, mais pas indépendante du pouvoir syrien, pour autant.
Enfin, qui n'avait pas réclamé. Effectivement, donc c'est effectivement une autonomie, alors de fait, hein, puisqu'elle n'a jamais été reconnue ni par le régime de Bachar el-Assad, ni par d'autres États. Mais autonomie de fait, qui était jusqu'ici tolérée, on va dire, et qui permettait justement à ce territoire qui est grand, hein, sur lequel vivent environ 5 millions de personnes, de mettre en place un autre système de démocratie direct, inspiré du municipalisme libertaire, qui a été théorisé par Murray Bookchin notamment, avec des principes surtout d'égalité entre les femmes et les hommes, qui est assez inédite et très forte et très visible quand on se
très
rend
avancé.
Sur place, très avancée. Mais aussi avec des principes justement de multiculturalisme et de coexistence pacifique de différentes ethnies, de différentes religions qui, dans d'autres zones du Proche et du Moyen-Orient, se tirent dessus, quoi. Mm-hmm. Donc c'est évidemment, c'était une expérience pour le coup vraiment révolutionnaire et très intéressante et porteuse d'espoir, à tel point d'ailleurs que le Rojava a accueilli beaucoup de déplacés et de réfugiés de Syrie, mais aussi du Kurdistan et irakiens qui venaient là justement trouver un refuge et une manière de vivre en paix. Et depuis le début de cette offensive, et malheureusement, toutes ces personnes sont à nouveau obligées de fuir après avoir valeureusement combattu Daesh pour notre compte, hein, pour le compte de la coalition occidentale. On en est à 300 000 personnes déplacées en l'espace d'une grosse dizaine de jours, à de nombreux civils tués, à des crimes de guerre qui sont aujourd'hui documentés. Et ce, malgré les annonces de Donald Trump et du président Erdogan qui annonçaient un cessez-le-feu, dont on a vu ces derniers jours que, notamment dans la ville de Serekanié, qui continue à être bombardée, non seulement il n'est pas respecté, mais en plus il bafoue toutes les règles internationales, puisque des hôpitaux, des convois de civils, des journalistes sont eux-mêmes attaqués et bombardés.
La question de l'introduction d'une nouvelle population dans cette zone, population arabe, quand on entend justement comme le modèle qui était appliqué au Rojava, en fait finalement les populations pouvaient venir de toute façon et puis être intégrées joyeusement probablement à cette société qui était justement ouverte à cela. Est-ce que c'est pas plutôt là, et par les deux dernières phrases que vous venez de dire, tout simplement un nouveau génocide, non pas arménien cette fois, mais kurde. Enfin, je veux dire, les Turcs ont l'habitude de pratiquer cela.
Oui, on parle de nettoyage ethnique. Et enfin, je veux dire, c'est pas un terme qui est utilisé uniquement dans les réseaux militants ou de soutien au Rojava aujourd'hui. Hein, c'est un terme qui aujourd'hui est utilisé par de hauts responsables, des diplomates, des membres du Sénat américain hein, également. Donc on parle effectivement clairement de nettoyage ethnique. Hein, c'est l'objectif clairement affiché effectivement par le gouvernement turc aujourd'hui, dans une zone où, de fait, les populations sont déjà mixées, puisqu'il faut faire attention d'ailleurs avec ça. On parle souvent de territoire kurde. En réalité, c'est un territoire à majorité kurde, parce qu'effectivement, il y a une population kurde très importante, mais où vivent également des Arabes, des Turkmènes, des Syriaques, plein de religions différentes, des chrétiens, des yézidis.
Dont on peut vérifier qu'ils sont parfaitement intégrés au gouvernement locaux, notamment.
Effectivement, ils sont intégrés. Moi, je suis allée, quand j'y étais allée la première fois au printemps 2018, j'avais assisté par exemple à une réunion d'une assemblée de cantons où il y avait une coprésidence arabo-kurde. C'est le cas aussi dans les forces démocratiques syriennes. C'est le cas à tous les niveaux en fait, de représentation avec... Des endroits hein, où tout se fait pas non plus sans heurts et sans tension, bien entendu. Il faut quand même regarder aussi les conditions dans lesquelles tout ça se fait, qui sont des décennies et des décennies d'affrontements et justement de politiques qui ont attisé les haines et les ressentiments. Donc il y a des zones de Syrie du nord et de l'est où les choses se font moins facilement que d'autres. C'est le cas notamment des territoires qui ont été libérés de Daesh plus récemment, notamment dans le sud de cette zone, du côté de Deir ez-Zor ou de Raqqa par exemple, qui sont là pour le coup à majorité de population arabe. Mais pour autant, les choses se font. Enfin, les choses se faisaient, en tout cas. Et ce qui est certain, c'est que la dernière chose dont on avait besoin, c'est justement de réattiser ces haines et ce fanatisme djihadiste contre les populations locales, sachant qu'aujourd'hui, tous les civils sont touchés sans aucune distinction. C'est-à-dire que voilà, il y a des victimes parmi les chrétiens, parmi les yézidis. Il y a évidemment, comme toujours en temps de guerre, peu de distinctions faites par les bombes qui tombent sur les populations. Donc aujourd'hui, on est au-delà de ces questions kurdes ou non kurdes. Et je voudrais juste rajouter aussi ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pour preuve de volonté de coexistence pacifique entre ces différents peuples, le Rojava a mis en place au niveau du système scolaire, par exemple, la traduction des manuels scolaires destinés aux enfants dans les trois langues principales. Donc on n'est pas face à un cas de kurdisation comme on a eu des cas d'arabisation suite à des mécanismes coloniaux ou d'oppression. Comme on le voit souvent, il y a souvent des retours de balancier hein, à la suite d'une oppression qui a duré des années et des années. Là, ce n'est pas le cas. Il y avait justement vraiment cette volonté de respecter l'ensemble des individus, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur tradition, quelle que soit leur langue et quelle que soit leur culture. Et c'est un peu tout ça qui est en train de voler en éclats aujourd'hui dans la zone, avec en plus une inquiétude immense par rapport à la résurgence de cellules dormantes de Daesh et à la libération ou à la fuite de certains prisonniers d'anciens combattants de Daesh ou d'anciens proches des familles de Daesh qui étaient jusqu'ici gardés dans des camps de prisonniers par justement les forces démocratiques syriennes et qui sont en train, à la faveur des événements et du chaos qui s'ensuit, de s'enfuir de ces camps, ce qui est évidemment extrêmement préoccupant pour la suite et pas seulement en Syrie.
Forces démocratiques syriennes qui sont appelées YPD, c'est ça, hein, qui sont considérées par la Turquie comme étant des terroristes eux-mêmes, donc ils libèrent d'autres terroristes pour...
Alors c'est un peu différent. Les forces démocratiques syriennes, c'est vraiment une coalition qui regroupe justement... voilà, des Kurdes, des Arabes, toutes les personnes en fait.
Dans lequel il y a le YPD qui est considéré.
Et ouais. Voilà, donc et le YPD, c'est enfin le PYD en français. En fait, c'est effectivement le parti politique qui est dominant en fait dans l'auto-administration, donc dans le gouvernement autonome de cette fédération de la Syrie du Nord et de l'Est. Bon, c'est une des difficultés hein, avec ce territoire, c'est que les choses sont extrêmement compliquées, extrêmement imbriquées, il y a plein de niveaux différents.
Oui, puisque vous êtes notre spécialiste, on va dire, à Erdiwa, au-delà du nettoyage ethnique, qu'est-ce que fait la Turquie ? Enfin, on a quand même vraiment du mal à comprendre son objectif, il est où ? Parce qu'elle a des Kurdes chez elle. Pourrait commencer par exemple à avoir une politique de nettoyage ethnique qui serait tout aussi horrible sur son propre territoire. Là, alors, il y a quand même une intrusion dans un pays voisin, souverain probablement. Enfin, on peut
alors, d'abord, il faut bien
est-ce
dire.
Est-ce qu'il y a un soutien des terroristes ?
Il y a une politique de répression vis-à-vis des populations kurdes en Turquie qui est extrêmement importante. Hein, et en ce moment même, le simple fait de parler de guerre ou d'invasion par rapport à ce qui est en train de se passer peut vous emmener en prison. Il y a déjà 24 personnes qui, là, en l'espace de 10 jours, ont été arrêtées en Turquie parce qu'elles avaient tweeté ou posté sur Facebook des messages de soutien, justement, à la Syrie du Nord. Donc ça, c'est la première chose. Et ça fait maintenant des mois, des années que les Kurdes sont violemment réprimés, que des élus, notamment du parti HDP, sont destitués, envoyés en prison. Enfin, voilà, on a beaucoup de cas de violations.
Ah, des procès, là.
Voilà, des droits de l'homme également en Turquie. Après, sur l'invasion turque, hein, il faut bien avoir en tête que ce n'est pas la première fois et qu'en réalité, une forme de blanc-seing a déjà été donnée par la communauté internationale à la Turquie, puisque ça fait maintenant plus d'un an et demi que le canton d'Afrin, en Syrie du Nord, a été envahi et est occupé aujourd'hui même par les forces turques. Donc un an et demi que dans...
Donc administré par elles aussi.
Absolument, en violation totale du droit international, l'ensemble de la communauté internationale, entre guillemets, tolère qu'il y ait une enclave turque sur le sol syrien. Avec en plus de nombreuses exactions qui sont reportées depuis, puisque c'est beaucoup là aussi des milices djihadistes en fait qui tiennent Afrin, avec des cas de kidnapping, de viol, de torture qui sont régulièrement recensés par des observatoires de défense des droits de l'homme.
Non mais donc la Turquie alimente cela ? Enfin, travaille avec ces djihadistes ? C'est vraiment la question qu'on se pose, quoi.
Non seulement la Turquie valide cela, mais elle l'organise, elle l'administre, puisque aujourd'hui, dans ce canton d'Afrin, c'est le drapeau turc hein, qui flotte au fronton des édifices publics, des écoles, etc.
Donc il n'y a plus besoin de le chercher trop longtemps, cet État islamique, en fait, il est clairement identifié, en action.
Honnêtement, sur le canton d'Afrin, on a de fait, effectivement, un laboratoire tout à fait documenté de ce que la Turquie envisage de faire dans l'ensemble de la Syrie du Nord. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour connaître ses intentions et pour avoir une idée de ce que donnerait une invasion réussie de la Syrie du Nord. Après, sur les objectifs, il y a d'abord effectivement une peur panique de la Turquie de voir un État kurde, ou en tout cas ce qui serait apparenté à un État kurde, se former le long de la frontière avec la Turquie. Ça, c'est clair. Il y a des objectifs aussi qui sont des objectifs intérieurs, puisque aux dernières élections, notamment municipales, Erdogan a perdu beaucoup de terrain. Il a notamment perdu la ville d'Istanbul, où son candidat a été battu une première fois. Du coup, ils ont fait procéder à un second vote. Et au second vote, il a été battu de manière encore plus éclatante. Si vous ajoutez à ça voilà, le fait que l'économie turque est dans une mauvaise passe, le fait de resserrer les rangs autour d'un ennemi identifié comme étant un ennemi terroriste, kurde, historique, qui est donc le PKK, l'organisation historique en fait du Parti des travailleurs kurdes, et ben c'est évidemment, comme on l'a vu hein, à travers les âges, une manière de ressouder la population autour de son leader qu'est Erdogan, en jouant en plus sur une forme de nostalgie du sultanat et de l'Empire ottoman et du mythe de l'homme fort. Donc
ça marche.
Bah écoutez, moi je suis pas sur place en Turquie, c'est difficile de dire si ça marche, mais en tout cas c'est des ressorts qui sont largement éprouvés à travers l'histoire. Et il faut bien avoir en tête que en Turquie, l'information est extrêmement partisane et biaisée, et ce depuis des décennies. Beaucoup de journaux indépendants d'opposition ont été muselés, et c'est vrai que la plupart des Turcs qui vivent en Turquie reçoivent une information qui leur indique que les Kurdes sont l'ennemi et sont le terreau du terrorisme.
Ouais.
Et donc l'opinion publique turque a effectivement cette idée qui lui est martelée depuis des décennies, et donc vraisemblablement on peut imaginer effectivement que cette offensive reçoit un soutien dans la population dû à cette propagande par rapport à des milices terroristes kurdes. Donc voilà, et les rares opinions différentes qui pourraient s'exprimer, comme je le disais tout à l'heure, même sur les réseaux sociaux, se retrouvent arrêtées. Là, les bureaux du HDP sont sous surveillance policière, la plupart des meetings sont interdits, les manifestations sont réprimées, donc c'est très difficile de faire entendre une autre voix aujourd'hui en Turquie. Donc c'est aussi une des difficultés par rapport à l'opinion publique turque qui aujourd'hui du coup n'a probablement pas beaucoup d'éléments alternatifs pour se faire une opinion réelle sur cette guerre et cette invasion en Syrie du Nord.
La communauté internationale, nous le disions, n'est pas très en action sur ce point-là. La France, pas vraiment non plus. À la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez voté une aide, c'est aussi pour ça qu'on en parle.
Oui.
Exceptionnelle.
Alors,
on ne peut plus faire que ça, les aider, puisqu'on ne va pas
Il y a effectivement, du côté des réactions internationales, il y a quand même énormément de condamnations, ce qui est déjà pas si mal, même si on peut regretter que ça ne se traduise pas pour l'instant en actes.
Des casques bleus, ça existe encore, ça, ou non?
Bonne question.
Je me rappelais de ça, moi, mais j'étais jeune. Hein.
Ouais, bonne question. Là, l'urgence, et c'est malheureusement une urgence qui dure maintenant depuis 10 jours, ce serait déjà de commencer par une zone d'exclusion aérienne, ce qu'on appelle les no-fly zones, qui n'a toujours pas été décidée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil européen fait des déclarations, mais pour l'instant, il n'y a pas d'action concrète non plus. Donc, c'est vrai qu'on arrive même pas à faire ouvrir un corridor humanitaire pour ne serait-ce qu'évacuer les blessés de l'hôpital de Sérékagné. Donc c'est des convois humanitaires qui se mettent en place de l'intérieur avec des volontaires internationaux kurdes, arabes, sur place du Rojava, qui se mobilisent pour eux-mêmes ouvrir ce corridor. Donc c'est quand même complètement aberrant. Donc de fait, les Nations Unies sont totalement inexistantes sur place, et c'est quelque chose que nous, on avait déjà constaté quand on y est allé en juillet dans les camps de réfugiés, puisque le régime de Bachar el-Assad a interdit à toute organisation inscrite à Damas et donc souhaitant intervenir en Syrie d'intervenir dans cette zone de Syrie du Nord. Donc concrètement, aujourd'hui, la population ne peut effectivement compter que sur elle-même. Au-delà du fait de maintenir une pression sur les dirigeants politiques du monde entier pour que des mesures fortes de sanctions économiques, d'exclusion aérienne, etc. soient prises. En attendant, il faut évidemment pouvoir agir pour les premières victimes, qui sont déjà extrêmement nombreuses. Et donc, on a proposé avec mon groupe à la région d'activer le fonds d'urgence de la région sur le plan d'aide aux minorités persécutées aux proches et aux Moyen-Orient, qui a été voté par la région il y a déjà quelques temps. Ce plan d'aide, il nous permet d'avoir un dispositif déjà existant. Au tout début de l'offensive, dès l'annonce de Donald Trump de retrait des forces américaines, j'ai envoyé un courrier à Laurent Wauquiez, avec qui on avait déjà échangé sur ce sujet, et qui avait été, je dois dire, tout à fait sans ambiguïté au moment de l'invasion d'Afrin, justement. Il avait pris des positions tout à fait claires de soutien aux Kurdes et de condamnation de cette invasion à Afrin. Puis j'ai relancé en portant cette proposition de déblocage d'un fonds d'urgence. On a ensuite eu un certain nombre d'allers-retours et d'échanges jusqu'à cette assemblée plénière où il y a donc eu effectivement un vœu proposé par l'exécutif, donc par la majorité, pour débloquer un fonds d'urgence comme on l'avait demandé. Donc voilà, c'est effectivement pour moi tout à fait un acte qui, je dois le dire, honore notre collectivité, puisque en plus ce vœu a été voté à l'unanimité. Ce qui est quand même pas très souvent à la région. On a donc voté... Même le RN, qui était pourtant extrêmement énervé et en colère, parce qu'ils avaient déposé un vœu sur cette question-là, alors qui proposait pas de débloquer des fonds, mais qui proposait une réunion d'urgence avec différents acteurs. Et de fait, voilà, ils étaient très énervés parce que ce vœu proposant quelque chose de beaucoup plus concret, de fait, pour les populations sur place, a de fait tomber leur vœu. Donc voilà, ils étaient visiblement très en colère. Ils l'ont exprimé à grand bruit, d'ailleurs, dans l'hémicycle. Bon, l'essentiel étant quand même la réalité concrète et l'aide matérielle qui a été débloquée là. Après, les petits calculs politiciens et les enjeux intérieurs ont évidemment très peu d'importance. Et donc, c'est 100 000 euros qui ont été débloqués. On a par ailleurs, par le fait qu'on ait voté ça à l'unanimité, pu faire une délégation au président pour que ça passe immédiatement en commission permanente à suivre dès le lendemain. Et donc là, il y a déjà 50 000 euros qui ont été affectés à une ONG qui s'appelle APTED, qui travaille au Kurdistan irakien sur justement l'accueil des réfugiés dans des camps. Et donc, voilà, cette aide est d'ores et déjà en cours d'acheminement, entre guillemets, sachant que beaucoup de, parmi les 300 000 populations déplacées depuis le début de ce nouveau conflit, beaucoup vont se réfugier au Kurdistan irakien.
Voilà, c'était ma question suivante.
Voilà,
donc ça n'a pas arrêté de faire des allers-retours. Un coup, c'était les Irakiens qui venaient en Syrie.
C'est juste à hurler, quoi. C'est-à-dire que là, des camps de réfugiés qui avaient pu être fermés au Kurdistan irakien doivent rouvrir, en fait, quelques mois après leur fermeture.
Erdogan, il va faire quoi après? Il va aller en Irak
Ça fait malheureusement un bout de temps que l'armée turque bombarde également le Kurdistan irakien, notamment au nord du Kurdistan irakien, qui est considéré comme un foyer justement du PKK. Donc les bombardements turcs sont monnaie courante, hélas, au Kurdistan irakien depuis des mois également.
Eh bien, on va conclure ce sujet, peut-être en se demandant qu'est-ce qu'il va falloir faire. Est-ce que la France, parce que là, on voit Laurent Wauquiez, en fait, globalement, tout parti politique confondu, tout bord politique confondu, la France condamne, le dit pas très très fort, mais condamne. Est-ce qu'on aurait possibilité de faire quelque chose, enfin, au-delà de la sanction économique casser la diplomatie avec la Turquie, je veux dire...
La France...
On a l'impression que la France soutient les Kurdes depuis le début, qu'il y a une espèce de... Comme le Tibet libre,
le
comme les...
C'est le cas, c'est vrai que ça fait plusieurs gouvernements successifs qu'il y a une vraie diplomatie de la France vis-à-vis des Kurdes, que des représentants de l'auto-administration ont été reçus officiellement par Hollande, mais aussi par Macron, ce qui n'est pas rien, hein, et on ne peut pas le négliger.
On apprend même que des forces militaires forment des gens là-bas.
Voilà, mais la difficulté, c'est que, entre autres, que la Turquie est membre de l'OTAN, comme les États-Unis et la France, ce qui pose un certain nombre de difficultés diplomatiques et géostratégiques.
Et donc on peut s'attaquer entre pays de l'OTAN, ça c'est bon?
C'est une des questions qui est posée, effectivement, et qui est posée de plein de manières différentes, hein, parce que on sait aussi que les États-Unis, par exemple, ont des bases militaires en Turquie où sont entreposées des armes nucléaires. Donc, quid du devenir de ces armes nucléaires qui sont aujourd'hui sur le sol turc si les États-Unis et la Turquie venaient à s'affronter de manière directe, par exemple? Voilà, la situation, elle est extrêmement compliquée d'un point de vue géostratégique. On sait que la Russie est en train de tirer son épingle du jeu de tout ça avec la défection des États-Unis et de reprendre la main du coup sur ce qui se passe dans toute cette zone. Donc la situation est extrêmement compliquée, elle est extrêmement confuse. Pour autant, ça n'empêche pas effectivement qu'il y ait des décisions qui soient prises. Pour preuve, la France, comme d'autres pays européens, a annoncé qu'elle arrêtait la vente d'armes à la Turquie, par exemple. Alors c'est évidemment une décision qui arrive un peu tard, puisque ça fait des années que la France vend des armes à la Turquie qui sont aujourd'hui même en train de servir justement contre les populations de Syrie du Nord. Mais n'empêche que si elle a pu prendre cette décision, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas également prendre un certain nombre de sanctions économiques et réclamer de manière beaucoup plus importante au Conseil de sécurité de l'ONU, au Conseil européen, justement une zone d'exclusion aérienne par exemple. Sachant que la France a une histoire particulière en Syrie. La Syrie a été un protectorat français, qu'il y a une histoire aussi responsabilité. Du coup, comme beaucoup d'autres pays où la France a été présente en tant que pays colonisateur ou pays administrateur, on va dire. Donc voilà, la responsabilité, elle est de multiples historiques. Et aujourd'hui, effectivement, les décisions sont de manière très claire, très loin d'être à la hauteur. Donc face à ça, l'appel qui est lancé à l'ensemble des personnes en France qui se soucient de toutes ces questions-là, c'est de participer au rassemblement de soutien. Il y en a beaucoup qui sont organisés en ce moment un peu partout en France. Pour celles et ceux qui le peuvent, de participer financièrement. Il y a un appel qui a été lancé par le Rojasor, qui est une organisation du Soleil Rouge, qui est une organisation humanitaire qui intervient au Rojava, au Kurdistan irakien, auprès de ces populations. Donc il y a une cagnotte qui a été lancée sur Hello Asso, qui peut être abondée même par de petits fonds, parce que là, il y a vraiment un besoin urgent de choses tout à fait de base, hein, c'est-à-dire que tout manque, donc même les dons les plus minimes sont précieux, et puis de continuer par tous les moyens, effectivement, à informer, à alerter, à relayer ce qui se passe, et à faire en sorte au moins que tout ça ne se fasse pas dans le silence, quoi. Mmh.
Puis ça continuera peut-être de mettre la pression à nos pouvoirs publics.
Absolument.
Allez, on y va dans cette assemblée plénière du 17-18 octobre, Corinne Morel-Darleux. Alors, l'ambiance n'était pas terrible, on l'a entendu sur cette aide au Rojava, hein, mais globalement, c'était pas terrible. Et notamment, vous avez parlé de quelques problématiques juridiques encore et encore à la région. Ouais. J'avais envie de demander, est-ce que c'est exceptionnel? C'est la première fois que la région Auvergne-Rhône-Alpes s'enchaîne comme ça autant de condamnations? Ou c'est toujours comme ça? Tous les présidents ont un peu des casseroles?
Non, très honnêtement, c'est pas complètement nouveau, je peux pas dire ça.
Voilà.
Les problèmes juridiques, il y en a eu avant, et malheureusement, je crains qu'il n'y en ait encore après. En tout cas, là, effectivement, on a eu deux annonces un peu surprenantes pendant l'Assemblée, hein, pendant qu'on était réunis. Une, d'ailleurs, qui date du précédent mandat, hein, sous la présidence de Jean-Jacques Kerran, c'est les conclusions de l'enquête, d'une enquête préliminaire qui avait été lancée sur une affaire d'espionnage des boîtes mail de la région, qui concerne donc à la fois les élus que
de
nous
l'époque,
étions sous le mandat précédent, mais aussi les agents de la région, les boîtes mail des différents syndicats de la région, avec des conclusions suffisamment importantes pour que l'affaire soit envoyée en correctionnel, où on a visiblement une grosse suspicion sur le fait que le directeur à l'époque des services informatiques et l'ancien directeur général des services, sous l'ancienne présidence, se seraient mis d'accord pour effectivement avoir un accès direct, grâce aux prestataires informatiques, à toutes les boîtes mail de la région.
Alors pour donner à qui ces infos? Qui espionnait, en fait?
Pour les avoir eux-mêmes directement. Donc après,
bon, c'est un technicien. Enfin, je veux dire, c'est un directeur.
C'est un petit peu plus que des techniciens, d'accord, puisque là, on parle de postes de direction qui sont des postes éminemment politiques et qui sont généralement choisis ou au moins orientés, on va dire, par la majorité qui préside la région. Sachant que là, en plus, la personne qui est mise en cause a été nommée ensuite préfet et aujourd'hui directeur de l'Agence régionale de la santé de PACA. Donc on est sur des, comment on dit, des hauts responsables.
Très hauts fonctionnaires territoriaux.
Voilà, c'est ça, THFT, très hauts fonctionnaires territoriaux. Donc à suivre, hein, c'est une affaire qui est en justice aujourd'hui.
Ça ne met pas en cause l'actuelle majorité, ni...
Là, pour le coup, c'est plutôt la majorité précédente qui est quand même fortement...
Laurent Wauquiez n'a pas...
inquiété.
Bon. N'a pas mis la main sur ses infos au passage, quoi. Il s'est pas dit, tiens, c'est l'occasion.
Alors,
on
sait que ça a perduré, en fait, le temps de l'installation de la nouvelle majorité, etc.
Ouais,
donc, quant à savoir ce que sont devenus, effectivement, les mails qui ont pu être échangés au début de ce nouveau mandat, ça, je sais pas si on le saura un jour. En tout cas, normalement, aujourd'hui, nos boîtes mails ne sont plus espionnées. En tout cas, on le souhaite. Autant vous dire que, de toute manière, ça fait quand même un bout de temps que personnellement et avec quelques autres élus, nous n'utilisons pas nos boîtes mail de la région quand nous avons besoin de communiquer entre nous sur des affaires sensibles concernant la région.
Donc le prestataire informatique va tomber aussi ? C'est infernal, il faut que tout le monde le sache, il ne faut plus travailler avec.
Bah écoutez, voilà, on attend avec impatience en tout cas les rendus de justice effectivement par rapport à cette affaire et les condamnations éventuelles qui en sortiront. Alors pour autant, la majorité actuelle n'a pas été totalement indemne non plus des annonces qui ont été sorties dans la presse pendant qu'on était réunis en session plénière. Puisqu'on a aussi eu la communication du rapport de la Cour des comptes, hein, dont Laurent Wauquiez s'est beaucoup félicité, hein, puisqu'on a eu à nouveau toute une campagne
plein
de communication payée par la région sur le fait que Auvergne-Rhône-Alpes était la région la mieux gérée de France, ce qui est par ailleurs... La Cour des comptes n'établit aucun classement des régions et n'établit des jugements que quantitatifs et non qualitatif, donc c'est une communication pour le moins abusive. Et puis il se trouve que la presse a relevé que dans ce rapport de la Cour des comptes, il y avait notamment un fait qui était épinglé, c'est la rémunération d'un des plus proches collaborateurs de Laurent Wauquiez, Ange Sidbon, qui est par ailleurs également le spécialiste des cartes électorales chez les Républicains et qui est
c'est-à-dire
chez les Républicains, c'est le référent des découpages électoraux.
Ah oui.
Voilà, et qui est donc
carte électorale.
Du découpage électoral et de l'analyse des différents scrutins selon les circonscriptions, les départements, etc. Donc, il est considéré comme étant, je cite, à haut niveau de technicité. Et donc, ce monsieur est quand même rémunéré 9000 euros net par mois.
Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un conseiller spécial. Enfin, c'est quelqu'un avec qui...
Oui, on pourrait parler de conseiller spécial, effectivement.
Qu'est-ce que c'est un collaborateur, en fait ?
En fait, ça fait partie de ces postes qui ne sont pas soumis, en fait, aux règles d'embauche des collectivités territoriales et qui n'est donc pas issu de la fonction publique territoriale, qui sont des postes comme des postes de cabinet, si vous voulez, donc qui sont des postes en réalité extrêmement politiques. Ça, pour le coup, ça existe sous toutes les majorités et dans toutes les collectivités territoriales. On n'est pas toujours à des salaires de 9000 euros net par mois, ce qui est quand même évidemment énorme par rapport à la moyenne des rémunérations. Et c'était d'autant plus, surprenant, d'autant plus choquant que cette annonce est arrivée justement ce jour d'assemblée plénière où il y avait précisément un mouvement de grève chez les agents de la région qui se plaignent de leurs conditions de travail avec des témoignages assez ahurissants effectivement en termes de sous-effectifs, de manque de moyens et puis de pratiques qui peuvent être assimilées à du harcèlement sur objectif, d'humiliation récurrente où on met en fait les agents en situation d'échec, en situation de ne pas pouvoir faire leur travail par manque d'effectifs, par désorganisation, par manque de moyens et où ils sont ensuite humiliés publiquement lors de formations, lors de réunions par l'encadrement. Donc je dois dire que le fait en plus que cette nouvelle d'un salaire mirobolant sorte jour de grève et de manifestation chez les agents était particulièrement piquante.
Ça va pas aller mieux alors. On parle régulièrement d'agriculture ensemble dans cette émission. Alors, il y aurait un groupe de travail pour parler des assurances agricoles, hein, des choses qui vont nous toucher de plus en plus entre le gel, la sécheresse, j'en passe, c'est des meilleurs.
Oui, alors c'est effectivement une initiative intéressante parce que ça fait longtemps que des élus de tous bords politiques confondus signale que ça devient urgent. Au départ, le constat que tout le monde fait, hein, c'est que on a quand même une multiplication des épisodes à la fois de sécheresse, mais aussi parfois de grêle, et en tout cas d'épisodes climatiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses et de plus en plus imprévisibles, c'est-à-dire qu'ils arrivent aussi à des moments où on n'avait pas l'habitude de les voir par le passé. Toutes ces corrélations étant pour beaucoup directement directement lié au réchauffement climatique, selon la plupart des experts et des climatologues. Jusqu'ici, la région intervient, je vais dire, pour colmater les brèches, c'est-à-dire en aide exceptionnelle une fois que la catastrophe a eu lieu, pour essayer d'indemniser un peu les agriculteurs qui ont été le plus sévèrement touchés, avec des aides qui, malheureusement, une fois qu'elles sont divisées par le nombre d'agriculteurs impactés, sont des aides qui sont très largement insuffisantes, hein, par rapport aux pertes, que ce soit des pertes de récolte, des problèmes de fourrage pour les éleveurs, etc. Voilà, on a souvent eu en commission agriculture des discussions disant qu'en fait on ne pouvait pas se contenter d'aider une fois le sinistre arrivé et qu'il fallait absolument qu'on réfléchisse d'abord en amont sur le fait d'agir directement sur les causes du réchauffement climatique. Bon, là-dessus je dois dire qu'on a du mal encore à progresser et d'aider aussi justement sur l'accès en fait aux assurances sur justement toutes ces calamités agricoles. Aujourd'hui, la plupart des agriculteurs ne sont pas assurés parce que en fait, tout simplement, ces assurances ont un coût qui est souvent totalement exorbitant par rapport à la réalité économique de la plupart des paysans et des agriculteurs. Et donc, là, l'idée, c'est de voir comment la région peut aider justement sur un dispositif d'assurance avec une première réunion du coup de ce groupe de travail pour y réfléchir qui a eu lieu la semaine dernière, qui regroupait à la fois les professionnels qui étaient représentés notamment par la Chambre régionale d'agriculture, qui porte une vision particulière de l'agriculture, mais enfin qui a le mérite de représenter quand même pas mal de monde. Il y avait aussi des gens de la coordination rurale qui étaient présents, il y avait des gens évidemment de la région, des représentants de l'État aussi, qui étaient présents et qui ont pu parler aussi des dispositifs européens et des réglementations européennes, et puis des représentants des assurances privées. Donc on a fait un premier tour de chauffe, on va dire, qui était clairement pas conclusif et pas décisif, ou qui a eu le mérite au moins, en tout cas, de reconnaître l'inquiétude, y compris des assurances qui, elles, pour le coup, reconnaissent parce qu'elles le sentent dans...
Elles y croient au réchauffement climatique, alors.
Elles y croient et elles en sont extrêmement inquiètes parce qu'elles voient bien, en fait, qu'elles sont en train de se mettre elles-mêmes en péril parce qu'en réalité, le coût des indemnisations, tout sinistre confondu, est en train de très largement dépasser les cotisations.
Voilà des lanceurs d'alerte étonnants auxquels on s'attendait pas quand
même. Tout à fait. Et du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de solution qui se soit dégagée évidemment dans cette réunion et c'était pas complètement l'attente. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en tout cas que le modèle qui est privilégié, c'est celui effectivement d'aider en fait les agriculteurs à aller vers des assurances privées. Ce qui pose quand même beaucoup de questions. D'abord parce que ces assurances n'assureront pas ni tout, ni tout le monde, parce que justement elles sont privées et qu'elles elles ont des impératifs économiques, de ne pas mettre la clé sous la porte et donc d'équilibrer et de continuer à générer des profits. Donc les seuils de déclenchement sont beaucoup trop hauts, le coût de l'assurance est beaucoup trop élevé, etc. Donc ça ne pourra pas concerner tout le monde, notamment les plus petits paysans. Et donc, moi, je suis intervenue notamment pour relayer une proposition que je trouve très intéressante, qui est portée, entre autres, par la Confédération Paysanne, d'un fonds mutuel et solidaire, justement, face aux risques climatiques, qui permettrait d'avoir, en fait, un système assurantiel qui ne repose pas sur des acteurs privés, mais qui repose, justement, sur des principes de mutualisation, comme on en connaît sur d'autres mécanismes, à commencer par la question de la sécurité sociale, par exemple. Donc, il y a un travail assez intéressant qui a été fait par la Confédération Paysanne là-dessus, avec un mix en termes de financement sur à la fois des contributions obligatoires qui existent déjà, d'ailleurs, auprès de la plupart des paysans, mais aussi, surtout, avec la mise à contribution d'abord de l'aval de la filière, de l'État, une réorientation d'un certain nombre de fonds européens qui sont aujourd'hui déjà utilisés pour cofinancer les assurances privées. C'est quand même 120 millions d'euros qui pourraient être réorientés justement vers un fonds de mutualisation solidaire. Et puis l'instauration d'une nouvelle taxe sur la spéculation sur les matières premières agricoles, dont on sait en plus tout le mal qu'elle fait, y compris au niveau international. Donc ça permettrait ça justement d'avoir un plafond d'indemnisation qui permette de faire en sorte que l'indemnisation n'aille pas en trop grande partie aux plus gros exploitants et du coup d'avoir un seuil de déclenchement en termes de nombre d'hectares qui soit plus bas et qui permette d'aider un maximum de paysans. Sachant qu'après, libre évidemment aux grosses exploitations de recourir au privé pour ce qui ne serait pas couvert par ce fonds de mutualisation. Donc voilà, c'est une piste moi que je trouve intéressante qui pourrait venir en complément justement du système d'assurance privée pour ceux qui ne pourront pas y accéder, même avec une aide de la région. Donc j'espère que cette idée fera son chemin, même si les premiers retours n'étaient pas extrêmement encourageants. En tout cas, il y a un dialogue qui s'est ouvert.
Ah voilà pour l'agriculture. Et pendant ce temps, parce que c'est quand même, on a l'impression d'un pansement sur une jambe de bois, on va pas assurer effectivement toute la vie, tout le temps, jusqu'à ce qu'il y ait quatre catastrophes d'affilée et que de toute façon on puisse plus rien produire. Il y a des bilans plus mitigés à la région Rhône-Alpes, plus climato-sceptique, hein, on parlait de ça hors antenne. Voilà par exemple le bilan montagne. C'est un peu le feuilleton de cette émission.
Ouais, c'est un peu le feuilleton. Alors là, on a eu quelque chose d'ailleurs qu'on demandait. Hein, donc ça, c'est plutôt une bonne chose en termes de transparence. C'est un bilan sur justement ce fameux plan montagne depuis le début du mandat. Donc on a eu un bilan chiffré en commission montagne qui est assez intéressant puisque donc dans ce plan montagne, il y a plusieurs volets hein, qui ont été décidés. Le premier volet qui est de loin le plus important en termes budgétaires, qui est le plan neige, qui consiste à financer à la fois des retenues d'altitude pour garder l'eau de pluie et des canons à neige que cette eau va venir alimenter pour produire de la neige artificielle sur les stations de ski qui en manquent et qui vont de plus en plus en manquer. Donc sur ce plan neige, on en est, selon ce bilan, à 44 millions d'euros d'investis par la région. Sur le deuxième volet, qui est un volet hébergement, notamment à destination des saisonniers, qui est là aussi une vraie problématique dans les stations, mais aussi sur de l'immobilier de loisirs, de rénovation, pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de lits froids. Donc de logements en fait non utilisés en montagne et dans les stations. Là, on en est à 6,5 millions d'investis. Sur le troisième volet, qui est un volet de diversification des petites stations pour qu'elles aillent justement vers d'autres activités et qu'elles soient moins dépendantes de l'activité ski, on en est à 2,6 millions. On voit que ça décline, hein, 44 millions. 6,6 millions, 2,6 millions.
Il vaut mieux faire de la neige, quoi.
On a deux autres volets qui, là, pour le coup, sont en cours. Un volet d'accès aux stations par des téléportés. Donc des funiculaires, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours avec des projets qui seront vraisemblablement très peu nombreux, mais très coûteux, puisqu'on parle de très gros équipements qui permettraient de relier par funiculaire, en fait, des stations en évitant justement les petites routes de montagne avec des avantages, mais aussi des inconvénients en termes, là encore, de travaux, d'équipements, d'infrastructures, donc qui seront à évaluer. Et puis un cinquième volet qui est beaucoup plus sympathique sur les classes de neige qui est en cours de déploiement, donc sur lequel on n'a pas encore de budget pour l'instant. Donc voilà, en tout cas c'était intéressant d'avoir ce bilan en matière de transparence. Ce qu'il était aussi, c'est les discussions qui ont eu lieu autour de ce bilan, puisque ça a donné lieu à un certain nombre d'échanges politiques tout à fait intéressants, une fois de plus, sur les questions de réchauffement climatique, les problématiques que ça pose sur les stations et comment on anticipe ou non justement leur accompagnement pour faire en sorte qu'elles ne se retrouvent pas le bec dans l'eau, si je puis me permettre, dans quelques années. Mais avec un florilège, notamment de la part de Gilles Chabert, qui est président de cette commission, qui nous a à nouveau expliqué que, a-t-il dit, les spécialistes météo qui ne savent pas nous dire s'il y aura de la neige dans un mois, mais qui prétendent savoir ce qui va se passer dans 50 ans, qui nous explique que sur la question de l'usage de l'eau, il n'y a pas le feu au lac, etc. etc. Donc, qui continue à traiter toutes ces questions avec beaucoup de désinvolture qui commence à devenir franchement gênante, vu la situation d'urgence absolue dans laquelle on se trouve aujourd'hui sur ces questions.
Il n'est pas un peu isolé, d'ailleurs, sur ces questions ? Il est encore suivi par une majorité qui peut le trouver crédible.
En tout cas, il fait toujours partie de la majorité de Laurent Wauquiez, avec sa place
Trump,
dans l'exécutif. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas de désolidarisation claire de la part des élus de la majorité sur un certain nombre de propos. On voit bien que certains, parfois, sont gênés, nous expliquent que, bon, il ne faut pas le prendre mal, que c'est son côté folklorique et qu'il est comme ça. Il y a un moment où le côté folklorique commence à ne plus être drôle du tout, en fait. Quand on voit la situation, justement, des stations de ski, le risque de surendettement, les épisodes de sécheresse, comme on l'a vu avec le lac d'Annecy, les écroulements de montagnes qu'on voit dans les Alpes, ça commence à devenir, pour le coup, franchement, gênant. Et extrêmement choquant de voir la désinvolture avec laquelle tout cela est traité par le conseiller spécial délégué à la montagne de Laurent Wauquiez.
Un campus pour l'aéronautique, parce que ça aussi, faut le faire progresser.
Oui, ça c'est pareil en fait. On a eu à voter une délibération pendant cette session plénière pour la structuration d'une filière d'excellence sur l'aéronautique. Un rapport qui ne dit pas un mot du réchauffement climatique, ne dit pas un mot de la contribution du secteur aérien aux émissions de gaz à effet de serre et qui est entièrement dédié à un enthousiasme délirant pour les perspectives de croissance du secteur aérien, notamment d'ailleurs sur des liaisons métropolitaines, des liaisons intérieures, et que face à cette formidable opportunité de croissance économique, la région ne doit pas être en reste et doit donc aider le secteur aéronautique et sa filière à se structurer, à se coordonner, à trouver du personnel qualifié, donc en encourageant la formation au métier de l'aéronautique et à en faire un pôle d'excellence. Donc c'est un campus aéronautique qui doit accompagner cette formidable opportunité de croissance du secteur qu'on nous promet dans les années à venir. Et ce qui est totalement étonnant, c'est qu'il n'y ait pas l'ombre d'une mise en perspective, pas un mot sur le fait que ces perspectives de croissance, c'est aussi des promesses d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, qu'il serait peut-être plus judicieux d'accompagner le développement justement dans d'autres filières alternatives en matière de transport, par exemple, ou de recherche. Donc c'est une fois de plus un manque de recul, d'anticipation de la part de responsables de politique publique qui est assez inquiétant, je dois dire, sur ce que ça dit de la vision à court terme de la plupart des élus, puisque, je dois le dire avec beaucoup de regret, ce campus aéronautique a été voté avec une très large majorité, puisqu'il n'y a eu que 34 voix contre sur plus de 200 élus régionaux.
C'est pas un peu la poule aux œufs d'or, cette histoire d'avion là ? Franchement, on est... On ne comprend pas l'engouement, même là, autour des aéroports de Paris, au national, une possibilité de référendum contre sa privatisation ou pas. Mais est-ce que réellement, c'est quelque chose qui est en pleine expansion, dont on peut prédire à 10 ans qu'on va se faire plein de fric en Rhône-Alpes ?
Écoutez,
parce que là, on parle de quoi ? C'est Chabeuil, pour nous ici, mais il y a Saint-Exupéry.
Il y a surtout des enjeux du côté de l'Auvergne, avec notamment Clermont-Ferrand, avec déjà une présence importante du secteur aéronautique et un début de campus aéronautique justement qui existe du côté de l'Auvergne. Et sur cette question, comme sur beaucoup d'autres, il s'agit souvent de ne pas fâcher justement les employeurs qui existent déjà dans la région, de peur qu'ils ne s'en aillent ailleurs et que cela puisse être reproché justement aux acteurs publics qui n'auront pas su retenir les emplois. Et du coup, au lieu de réfléchir à d'autres filières, un petit peu plus en phase avec toutes les prévisions et tous les travaux de scientifiques qui sont faits aujourd'hui, eh ben, on est sur des visions de court terme. Après, sur la question des extensions d'autres aéroports nationaux notamment, ou sur ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, ce qui se passe aujourd'hui sur l'aéroport de Paris, ce qui se passe avec la volonté d'avoir un nouveau terminal à Roissy, c'est aussi beaucoup des questions d'intérêt économique, puisque la plupart de ces extensions ou de ces nouveaux aéroports, etc., sont autant de délégations prévues à des opérateurs privés de type Vinci. C'est des voies d'accès, c'est des parkings, c'est des commerces, et c'est en réalité davantage ça que le trafic aérien en tant que tel, qui aujourd'hui donne des perspectives économiques qui font que beaucoup d'acteurs poussent pour que ça se fasse, au mépris effectivement des enjeux aujourd'hui universels, qui sont juste la préservation des conditions même de vie sur la planète, quoi.
Et en parlant de préservation des conditions de vie, on va terminer par cela. Un vœu contre les pesticides, en soutien notamment, on en parlait la dernière fois, à ces maires qui ont pris des arrêtés.
Oui, alors on le sait, hein, près d'ici, puisqu'il y a eu pas mal de presse, de remous, de manifestations pour comme contre sur l'arrêté municipal qui a été pris notamment à Sceaux par le maire et par son conseil municipal. C'est le cas de beaucoup de mairies en France qui ont pris des arrêtés anti-pesticides. Alors, c'est pas des arrêtés d'interdiction des pesticides, hein, c'est simplement pour respecter le principe de précaution qui est inscrit aujourd'hui dans la Constitution française, avec une distance, un périmètre de sécurité de 150 mètres sur justement l'épandage de ces pesticides pour préserver en fait tout simplement, hein, la santé des habitants, des riverains. Donc ces arrêtés ont été pour la plupart attaqués devant la justice, puis suspendus. Il y a des recours qui ont ensuite été déposés. C'est le cas pour la décision de Sceaux. Et donc là, l'idée était effectivement de faire un vœu qui soit un vœu de soutien en fait à ces maires, à ces conseils municipaux, qui finalement, d'une certaine manière, pour nous, pallient au manque de courage de l'État et en réalité prennent des décisions qui sont simplement des décisions de prudence et de préservation de la santé des habitants de leur commune, ce qui paraît quand même le minimum que puisse faire un conseil municipal. Donc ce vœu demandait notamment à ce que l'État abandonne toute poursuite et puis que naturellement il engage un plan d'accompagnement massif des agriculteurs pour se passer de ces pesticides, en rappelant par ailleurs que les agriculteurs étaient les premiers à être en contact avec ces produits et potentiellement à développer des pathologies liées à cette utilisation. Donc c'est pas voilà, il faut toujours le rappeler, c'est pas contre les agriculteurs, puisque eux-mêmes en sont les premières victimes potentielles, mais on a besoin d'un plan d'accompagnement et d'aide exceptionnel, massif, pour accompagner l'ensemble de la profession pour se passer effectivement de ces produits de synthèse, de ces produits chimiques qui non seulement sont toxiques pour la santé, mais qui en plus dépendent en grande partie, il faut le rappeler, de l'industrie pétrolière, avec tout ce que ça pose comme question en termes d'énergie fossile, de raréfaction de cette ressource, et là aussi d'émissions de gaz à effet de serre. Tout ça est lié, et malheureusement, plus nous tardons à apprendre à nous passer de pétrole, plus le choc risque d'être rude, et pas seulement pour les agriculteurs.
Et du coup, ben, sans surprise, personne à la région pour aller là-dedans,
dans non, cette direction. Non, le vœu a effectivement été retoqué, mais ça a quand même été l'occasion d'avoir le débat en commission et puis au moment de l'Assemblée plénière.
On se retrouve quand la prochaine fois ?
Alors la prochaine assemblée plénière, elle aura lieu le 19 et 20 décembre et ce sera une assemblée plénière importante pour nous, puisque c'est lors de cette assemblée que va être examiné notre projet de délibération unique pendant le mandat. On a droit à une délibération en tant qu'opposition. Et elle passera donc le 19 décembre en session plénière sur la structuration d'une filière de l'arbre hors forêt pour planter des arbres un peu partout dans la région, dans les villes comme dans les champs.
On va souhaiter que ça se passe et puis on se retrouve après cela.
Ouais, avec plaisir.
Merci Corinne Marlderleu, à la prochaine.
Merci.
Interview.
Okay, the bird.
Interview. L'interview du jour.